Aujourd'hui, on prendra la Sainte Cène, mais avant, on va parler dans Zacharie de deux visions un peu difficiles à comprendre lorsque on les lit rapidement. Mais on va d'abord prier et remettre cette étude au Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole, parce qu'elle est la vérité, sur elle nous pouvons fonder nos vies Seigneur. Nous pouvons comprendre pourquoi nous sommes ici, pourquoi tu es là, qu'est-ce qui se passe dans nos vies, quel est le grand schéma de l'univers et de la vie, de la mort. Seigneur, merci pour cette parole que tu as donnée à tes prophètes, tes apôtres, par le Saint-Esprit, et nous prions ce même Saint-Esprit de nous restituer ta parole, Seigneur, aujourd'hui, au XXIe siècle. Nous, sur qui la fin des temps est arrivée, ces choses ont été écrites pour nous. Et c'est toujours le miracle de remarquer combien ces paroles qui ont été écrites il y a si longtemps sont toujours d'une actualité brûlante. Et Seigneur, aide-nous à toujours vouloir davantage connaître ta parole pour la mettre en pratique surtout, Seigneur. Elle nous transforme, elle n'est pas là pour notre simple éducation intellectuelle, mais pour transformer nos vies, nos cœurs, Seigneur. Sois à l'œuvre ce matin. Écarte tout obstacle qui gênerait justement cette compréhension de ce que tu veux nous dire ce matin. Merci pour la façon imagée dont tu nous parles, Seigneur, pour qu'on puisse retenir et comprendre, Seigneur. Sois béni. Nous voulons te remettre aussi toutes les autres églises de cette ville qui t'adorent en esprit et en vérité. Prions qu'il y ait de plus en plus de monde qui soit interpellé par les temps que nous vivons, qui ait à cœur de trouver des réponses dans ta parole, Seigneur, dans ton église. On prie que tu bénisses, que tu fasses grandir, que tu préserves de toute mauvaise doctrine, de toute mauvaise influence ces églises. Seigneur, nous te remercions pour tous nos frères et sœurs dans cette ville, dans cette région, dans ce pays. Seigneur, sois à l'œuvre. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu des ovnis, en anglais des UFOs, Unidentified Flying Objects, des objets volants non identifiés. J'ai déjà vu des nuages un peu bizarres, qui avaient une espèce de forme de crêpe ou de cigare, mais j'ai bien regardé à chaque fois et je ne les ai pas vus se déplacer d'un seul coup pour aller au nord, au sud. C'est ce que ceux qui disent avoir été témoins de ces apparitions d'objets volants non identifiés disent souvent, c'est que ça s'est déplacé à une vitesse faramineuse. Et peut-être, je sais que ces témoignages sont pris au sérieux par des pays qui ont des sections de leur Air Force ou de leur armée de l'air qui est dédiée, qui essayent de suivre un peu les... Maintenant, c'est intéressant, avec les ordinateurs, on peut essayer de voir où ils apparaissent, où il y a eu des témoignages, et puis essayer de voir s'il y a un grand modèle ou quelque chose. Pour l'instant, je crois qu'on est encore réservé sur l'existence des ovnis, mais Zacharie, lui, il a vu des ovnis. Aujourd'hui, on va lire dans le chapitre 5... Il a vu un rouleau volant et puis il a vu une mesure à grain qui se promenait par là aussi. On va lire ensemble le chapitre 5 de Zacharie. Donc Zacharie, encore une fois, c'est un des derniers livres de l'Ancien Testament. Si vous arrivez dans les évangiles, au début du Nouveau Testament, il vous faut revenir en arrière de deux livres et revenir au chapitre 5. Je lis dans la version second 21. J'ai de nouveau levé les yeux et j'ai vu un rouleau de manuscrits volés. Il m'a dit, « Que vois-tu ?» J'ai répondu, « Je vois un rouleau qui vole. Il a 10 mètres de long et 5 de large. » Il m'a dit, c'est l'ange qui parlait, l'ange qui expliquait les choses, « C'est la malédiction qui se propage sur tout le pays. D'après une face, tout voleur sera chassé d'ici, et d'après l'autre, tout parjure sera chassé d'ici. Je la propage, parlant de la malédiction, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle s'y installe et la détruise avec sa charpente et ses pierres. » On va lire la deuxième vision. L'ange qui me parlait, verset 5, s'est avancé et m'a dit, « Lève les yeux et regarde ce qui sort là. » J'ai répondu, « Qu'est-ce que c'est ?» Il m'a répondu, « C'est la mesure à grains qui sort. » Il a ajouté, « C'est l'objet de leur regard dans tout le pays. Un disque en plomb a été soulevé et il y avait une femme assise au milieu de cette mesure. » L'ange a dit, « C'est la méchanceté. » Il l'a repoussée dans la mesure et a jeté le disque en plomb sur l'ouverture. J'ai levé les yeux et vu deux femmes apparaître. Le vent soufflait dans leurs ailes, elles avaient des ailes comme celles de la cigogne, et elles ont soulevé la mesure entre la terre et le ciel. J'ai dit à l'ange qui me parlait, « Où emporte-t-elle la mesure à grains ?» Il m'a répondu, « Elles vont lui construire une maison dans le pays de Shinéar. Quand elle sera prête, elle sera déposée là, sur sa base. » Amen. Voilà, deux visions simples. Zacharie reconnaissait que c'était des ovnis parce qu'il disait, « Qu'est-ce que c'est ?» C'était non identifié. Et j'aime bien sa réponse. Il voit un rouleau de manuscrits qui vole. L'ange, donc c'est pas l'ange de l'Éternel qui est une préincarnation de Jésus-Christ dont on a souvent parlé dans les visions précédentes, mais c'est l'ange qui explique, qui fait un peu l'interprète pour Zacharie et lui dit « Qu'est-ce que tu vois ?» Et il dit simplement « Je vois un rouleau qui vole. » Et ça, c'est une bonne façon de répondre quand vous ne savez pas de quoi il s'agit, lorsqu'on vous pose des questions dans la Bible, de dire, ben voilà, il est dit que telle et telle chose. Plutôt que de s'imaginer des choses, Zacharie est dans une attitude de réception d'informations. Il dit, ben j'en sais rien. Il avait vu qu'il avait ce rouleau de manuscrits avait à peu près une longueur de 10 mètres sur une largeur de 5 mètres. Aujourd'hui, on lit des livres. À l'époque, on reliait des morceaux de parchemin faits de plantes, de peaux d'animaux, ou bien on utilisait des morceaux de papyrus formés en papier et on les mettait sur deux rouleaux. Donc on enroulait et on pouvait, au fur et à mesure qu'on lisait, enrouler sur l'autre rouleau pour éviter d'avoir des mètres de papier par terre. Et c'était la façon jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on a appelé les codex, qui était de couper ces rouleaux en morceaux et de les relier ensemble, ce qui nous a donné le livre. Le livre, c'est un support fantastique, on peut retrouver facilement, on peut numéroter les pages, il n'y a pas besoin de Wi-Fi, il n'y a pas besoin de batterie, on peut le porter facilement. Alors aujourd'hui, on a différentes méthodes de propager les écritures et bien sûr avec les ordinateurs, les téléphones portables, on peut lire du texte. Le problème avec ces rouleaux, c'est que si on voulait revoir quelque chose, il fallait rembobiner, puis aller voir à la fin. C'est ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui encore sur certains PDF. S'il n'y a pas de numérotation des pages et que vous voulez retrouver quelque chose, il faut remonter. Alors ça va vite avec les souris et autres pointeurs, mais c'était un peu ce problème. Et là, il voit un rouleau qui vole. Un rouleau qui vole, ça fait penser à Hébreux 4:12 où il est dit que la parole de Dieu est vivante et elle est, on va lire pour citer exactement, Hébreux 4, verset 12, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, jointures et moelles, elle juge des sentiments et des pensées du cœur. Cette parole de Dieu, qui est sur un, pour la plupart d'entre nous, sur un support papier, qui peut être aussi sur votre téléphone, un portable, elle est vivante. Est-ce que vous l'aviez remarqué ? Vous pouvez interagir avec elle. Vous la lisez, c'est comme si quelqu'un vous parle. Elle vous reprend. Elle vous corrige. Elle vous instruit dans la bonne doctrine. Elle vous prépare à toute œuvre bonne. Ça, c'est Paul qui nous le dit dans 2 Timothée 3,16. Cette parole vivante, là, j'ai déjà un peu répondu à qu'est-ce que c'est que ce rouleau. C'est de toute évidence quelque chose qui a à faire avec la parole de Dieu. C'est un grand rouleau et apparemment il est déployé, déroulé. Là, on vous donne une longueur de 10 mètres et une largeur de 5 mètres. Ça, c'est parce que on veut vous donner tout de suite un ordre de grandeur. Plus exactement, à l'époque, on parlait en coudées. Et la coudée, c'était la longueur entre votre médium et votre coude. Et typiquement, je me suis mesuré encore hier soir, ça fait 45 cm, 46 cm. Ça dépend, bien sûr, de la taille des gens. Ça variait d'un endroit à l'autre. Mais si on prend cette dimension de 45 cm, en fait, les 10 mètres, c'était 9 mètres sur 4 mètres 50. Donc c'était un peu plus petit que 10 mètres sur 5. Mais surtout, pour vous donner une idée de la taille que ça représente, on pourrait le faire ici, vous avez déjà vu un terrain de volley. Le nombre à retenir quand vous faites un terrain de volley, c'est 9 mètres. Parce que c'est deux carrés de 9 mètres qui sont situés de part et d'autre d'un filet. Et si vous prenez un de ces carrés de 9 mètres par 9 mètres, vous le divisez en deux et vous avez la taille du rouleau volant de Zacharie. Maintenant, vous le savez. Et ça va changer votre vie. Blague à part, c'est pour dire que c'est très important, que c'est un rouleau qui vole dans le ciel, qui est vivant. Et jusqu'à présent, on a eu des visions qui étaient des visions d'encouragement pour le peuple des Juifs qui étaient revenus d'exil de Babylone pour reconstruire le temple. On a simplement fait remarquer que sur 2 millions, l'estimation de personnes qui avaient été déportées ou le nombre de Juifs qui vivaient à Babylone depuis 70 ans, il n'y en avait que 45 000 ou un peu plus de 40, entre 40 et 45 000 qui étaient revenus. Donc un tout petit nombre d'entre eux étaient revenus parce que les autres, eux, s'étaient bien installés. Ils prospéraient dans leur commerce, ils se sentaient bien, ils n'avaient pas envie de sacrifier leur vie, de tout remettre en question pour reconstruire le temple et honorer Dieu de la sorte. Cette fois-ci, et donc les différentes prophéties qu'on a vues, les chevaux qui étaient dans qui était dans le creux de la colline. Ça, c'était la première. On a dit que l'ange de l'Éternel, Jésus, était au milieu d'eux. Il priait pour eux. Il leur donnait des promesses que Jérusalem allait être reconstruite et accueillerait de plus en plus de monde. On a vu les quatre cornes qui représentaient les quatre grandes puissances qui ont dispersé Juda et Israël, et puis elles ont été une à une détruites par des forgerons. On pense que c'était les puissances suivantes qui venaient détruire la première puissance. On a vu un homme qui mesurait la ville de Jérusalem pour dire que la ville serait un jour pleine de monde, que Dieu lui-même serait sa muraille. Ils n'avaient pas besoin de se faire trop de soucis. Jésus, Dieu, serait là pour être une muraille de feu. On a vu le grand prêtre Josué qui était debout devant l'Éternel et il avait des habits couverts d'excréments qui étaient remplacés par un vêtement blanc tout propre. Et les accusations de Satan contre lui étaient rejetées par Dieu lui-même. On a vu un chandelier qui brûlait sans arrêt, de façon automatique, un chandomatique, avec des tirets entre chand et eau et matique, pour être à la mode américaine. Non, simplement c'était un miracle de deux arbres, deux oliviers, qui déversait de l'huile dans un réservoir qui alimentait par sept tuyaux chacune des chandelles de la menorah, le chandelier à sept branches, et qui était un rappel que Israël devait être une lumière pour le monde. On sait que la lumière ultime, c'est Jésus-Christ lui-même et que nous sommes tous appelés à être des lumières nous-mêmes. Vous êtes la lumière et le sel du monde. On n'a pas de problème à penser que Jésus est la lumière du monde, mais bien des fois on se dit, moi je peux être une lumière pour le monde. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Il veut que nous soyons ses témoins. Et il avait donc ces deux oliviers qui représentaient les deux chefs religieux et politique, à savoir Josué, le grand prêtre, et Zorobabel, le gouverneur qui revenait avec les Juifs reconstruire la ville, et le temple surtout. Et il y avait ce verset merveilleux qui nous disait, non pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, déclare le Seigneur. C'était une tâche immense que de reconstruire ce temple qui avait été détruit. C'était comme un splendide jeu de Lego qui avait été ravagé par des enfants qui les avaient mis de partout, les enfants étant en l'occurrence les troupes de Babylone. On sait que le temple qui va être reconstruit sera détruit aussi après Jésus-Christ en l'an 70. Et donc, cette dernière vision du chandelier qui brûlait sans problème, c'est la leçon, c'est qu'on peut rien faire sans le Saint-Esprit pour Dieu, mais qu'avec lui on peut tout faire. Et ça, c'est quelque chose que, si on est chrétien depuis quelque temps, on connaît, mais c'est quelque chose qu'on oublie souvent. On pique des crises, on dit « je vais pas y arriver, c'est pas possible, Seigneur, tu me demandes de faire ça, je crois que tu me demandes de faire ça, mais sans doute je me trompe parce que c'est impossible. » Et puis si on demande à l'Esprit de nous aider, de nous guider, on voit qu'on est utilisé par Dieu pour faire ses œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc tout ça, c'était très encourageant. Mais pour faire cette œuvre, il faut annoncer une mauvaise nouvelle, c'est la nouvelle du péché. Le péché qui est entré dans la race humaine lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, par orgueil, pour se faire aussi grand que Dieu, suivant la suggestion de Satan, le serpent, qui est toujours le maître du monde aujourd'hui. Est-ce que vous le saviez ? Jésus-Christ est venu, il l'a vaincu à la croix, mais pour une raison qu'on ne comprend pas toujours bien, il l'a laissé présent au lieu de le détruire. La parole nous dit qu'il va être complètement détruit et jeté dans l'étang de feu qui est préparé pour le diable et ceux qui le suivent. Mais Jésus lui laisse la liberté, c'est pour ça qu'on voit tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Lorsque les gens vous disent « si ton Dieu existe, pourquoi ceci, pourquoi cela ? Pourquoi la corruption ? Pourquoi les morts ?» Ah. La semaine dernière, j'ai été appelé au chevet d'une petite fille, d'anciens amis qui venaient à l'église quand on avait commencé à Nice. Et cette petite fille de 13 ans allait très bien. Elle avait un frère de 18 ans. La joie de ses parents, une petite fille belle, pleine de vie, qui aimait le Seigneur, qui aimait chanter, qui aimait louer le Seigneur. Et puis, il y a 2 semaines, le samedi, elle a commencé à se sentir très fatiguée. Ça ne s'est pas amélioré. Le dimanche soir, ses parents ont dû l'emmener aux urgences. Et là, après une prise de sang, les docteurs ont déclaré aux parents qu'en fait, elle avait une leucémie foudroyante. Le sang était très épaissi. Ils ont essayé de la mettre sous traitement. Elle a fait un premier AVC. Elle allait mieux. On l'avait envoyée. On pensait au début que c'était peut-être un problème ophtalmologique de l'œil, quelque chose comme ça. Puis finalement, on l'a renvoyée aux urgences à Lanval. Et là, elle a fait non pas seulement un AVC, mais elle a fait 3 AVC en l'espace de 2 jours, au point que beaucoup des cellules de son cerveau apparaissaient noires sur un scanner. Et ça s'est allé très vite. Une semaine plus tard, ses parents ont été mis devant la décision de savoir s'ils voulaient qu'on la conserve en vie ou pas, qu'elle ne revienne, d'après eux, elle ne reviendrait jamais à la vie, et que son cerveau était endommagé au point où si on la maintenait en vie, ce serait plutôt une vie de légumes sans aucune capacité. Alors bien sûr, on a prié pour qu'il y ait un miracle, mais le moment est venu où il a fallu débrancher le système de survie, de soutien. Et ça s'est passé en l'espace de 10 jours. Vous avez un enfant qui se porte bien, qui est la joie de votre vie. 10 jours plus tard, vous convoquez les gens pour les obsèques. La vie est très peu de choses. Et là, dans ces cas-là, on dit « Pourquoi ? Pourquoi ça se passe ? De telles choses se passent ?» Ce matin, j'ai lu un texto, un email plutôt, sur Facebook, quelqu'un avait mis un témoignage, un jeune couple américain qui travaille en France, qui s'occupait de l'école biblique à Paris. Ils étaient sur l'autoroute dans la soirée, et d'un seul coup, le capot de leur voiture s'est détaché et leur a bloqué la vue. Il faisait nuit, et Dieu merci, dans ce cas-là, ils ont pu s'arrêter et s'en sortir totalement indemnes. Ils auraient pu causer un accident terrible, se retrouver anéantis, et encore une fois on dit « Pourquoi ? Pourquoi eux ont eu cette bénédiction de ne pas être touchés dans cet accident qui aurait pu être terrible ?» On peut se demander pourquoi les constructeurs ne mettent pas les capots dans l'autre sens ? Plutôt que d'avoir la prise au vent, si on les faisait se lever de l'autre côté, ça demanderait peut-être un peu de changer les choses. Mais pourquoi ? Et je dis souvent, la bonne question, c'est pas pourquoi, mais c'est vers qui ? Vers qui est allée Sarah, cette petite fille de 13 ans ? Vers qui ses parents peuvent se tourner maintenant pour trouver la force de vivre ? Vers qui ce jeune couple peut adresser sa gratitude de les avoir épargnés. Vers qui doivent-ils se tourner avec une énergie redoublée parce que le temps est court et il nous est compté et on ne sait pas combien de temps on a. Vers qui ? Vers Jésus. Amen. Et donc, il y a cette malédiction qui se propage sur tout le pays. Donc, c'est encore une fois quelque chose qui n'est pas bon. Cette vision, encore une fois, il lève les yeux, il est conscient, c'est pas un rêve. Dans un rêve, les cerveaux sont impliqués, mais on appréhende le rêve par la mémoire. Là, il est là, il parle, il répond, il voit les choses. Et ce rouleau qui vole comme ça, on dirait presque un tapis magique, le tapis d'Aladin là qui vole, c'est en fait, il est dit que c'est une malédiction qui se propage sur tout le pays. Il est écrit sur ce rouleau, comme c'était un matériau rare et cher, on ne gaspillait pas le papier comme on le fait aujourd'hui quand on fait des photocopies juste au cas où. Et on écrivait des deux côtés. Et d'un côté, alors c'est encore une fois écrit en grand, hein, puisque c'est un demi-terrain de volley, un quart de terrain de volley. Il y est dit d'un côté, tout voleur sera chassé d'ici, sera expulsé, et de l'autre côté, tout parjure sera chassé d'ici, sera expulsé. Et on dit que c'est une malédiction. La loi de Dieu, les 10 commandements, plus tout ce qui avait été déclaré, ordonné à Moïse par Dieu, par l'Éternel, mais simplement les 10 commandements font que chaque homme est placé sous la malédiction de la loi. Souvent, lorsqu'on parle aux gens dans la rue, qu'on fait des sondages, qu'on discute un peu de choses spirituelles, de leur salut, de leur péché, ils vous disent « Moi, je respecte les 10 commandements. » La chose cruelle à faire, c'est de leur demander s'ils peuvent me répéter quels sont ces 10 commandements. Ces 10 commandements, c'est, pour les résumer rapidement, c'est un seul Dieu, pas d'idole, 2, pas utiliser le nom de l'Éternel en vain, respecter le jour du sabbat, honorer nos pères et nos mères, notre père et notre mère, que Dieu nous a donné. Et puis, ça c'est ce qui concerne notre relation verticale avec Dieu. Certains mettent les parents de l'autre côté, mais après il est question de nos relations horizontales, des relations entre nous, entre les hommes. Le 6e commandement, c'est pas de meurtre. Le 7e, pas d'adultère. Le 8e, pas de vol. Le 9e, pas de mensonge. Et le 10e, pas de convoitise. Et donc, lorsque ces gens qui vous disent qu'ils respectent les 10 commandements, c'est toujours bon de leur rappeler quels sont ces 10 commandements et de leur dire, est-ce que vous voulez répéter que vous respectez toujours, sans arrêt, parfaitement ces choses? Est-ce que vous n'avez jamais volé la moindre chose? Ah non, je n'ai jamais attaqué une banque. Vous avez pris ce joli stylo au bureau, vous l'avez ramené chez vous, là vous avez oublié de le ramener, c'est ça, hein? Ou est-ce que vous avez jamais menti? Ah, j'ai jamais menti. Ah ben, vous venez de faire un mensonge. Pas de convoitise. Pourquoi vous avez acheté cet iPhone qui coûte 10 fois plus qu'un téléphone équivalent, donc, qui vous aurait très bien servi? Oh, j'ai vu des pubs, la convoitise. C'est le moteur de notre économie, la convoitise. Avoir ce que les autres ont. La mode, les coiffures, les vêtements, les chaussures. Est-ce que vous remarquez les chaussures des autres ? Moi, j'y pense quand je dois acheter une nouvelle paire de chaussures parce que les miennes tombent en ruine. Et là, je commence à dire, tiens, qu'est-ce que... Enrico, qui est toujours le style italien, qu'est-ce qu'il porte comme chaussures ? Waouh ! Ah, d'accord. Fernando n'est pas mal non plus. On dirait que c'est les baskets... Voilà ce qui se passe. Je suis bête parce que je veux toujours que les gens viennent au premier rang et puis je tape sur les gens au premier rang. Je vous désolé, je vois vos chaussures. Pas de convoitise, pas de convoitise. Et en fait, il est dit que dans Galates, il est expliqué que la loi ne nous a pas été donnée pour qu'on arrive à la respecter et qu'on mérite ainsi le salut, l'approbation divine, le salut, l'amour de Dieu. Non, la loi, elle nous a été donnée pour nous montrer qu'on est totalement incapable de la respecter. Si on comprend ce qu'elle demande, elle demande la perfection. Si vous êtes tombé dans un canyon, dans une gorge, une rivière, et qu'il y a un hélicoptère qui vient vous chercher, qui descend un siège ou un crochet, une façon de vous sortir de là, et la chaîne est composée d'anneaux. Combien faut-il, quel est le nombre d'anneaux qu'il faut pour que la chaîne se casse et que je retombe dans le canyon ? Un seul. Et de la même façon, Jacques et d'autres nous expliquent que la loi, elle doit être respectée pour être capable de nous sauver. Il faudrait qu'on la respecte entièrement, tous les commandements. Pas de dire, oh, j'ai fait bon sur les 9. Et le 10e, moi j'ai regardé la pub et je suis allé acheter une grande télé avec une barre de son. C'est fou tout ce qui... On a l'impression qu'on a enfin arrivé à être au point, être au top niveau. Et puis il y a Apple qui ressort deux téléphones. Moi j'étais content, j'ai un iPhone 7. Maintenant je crois qu'ils en sont à 10 ou plus. Je suis déjà déclassé. Alors pardon pour ceux qui ont des iPhone 4 ou pas d'iPhone. Mais c'est juste pour illustrer ce phénomène. Et donc là, il est question de deux des commandements. Le vol, tout voleur sera chassé d'ici. C'est le commandement numéro 8. Et puis, tout parjure, c'est ceux qui auront utilisé le nom de l'Éternel en vain. Je jure au nom de Dieu que ce n'est pas vrai. Et dans la classification, on sait qu'il y avait deux tables de la loi. Les tables de la loi relatives à notre relation verticale avec Dieu, une autre table relative à nos relations horizontales avec les autres hommes, nos semblables, nos familles, les gens qui nous entourent. Et en fait, si on considère que honorer son père et sa mère, ça devient... Dans le premier tableau, pas prendre le nom en vain, c'est au milieu des commandements relatifs à Dieu. Et le vol, c'est le numéro 8, donc 6, 7, 8, 9, 10, c'est le milieu des commandements relatifs à nos relations avec nos semblables. Et certains commentateurs disent qu'en fait, c'est deux commandements, mais qu'ils sont pris parce que c'est ce qui lui a sauté aux yeux, mais qu'en fait, toute la loi est indiquée sur ce quart de terrain de volée de rouleau qui vole. C'est bizarre, hein, cette image. Mais ce que j'aime bien, c'est que quand la Bible nous surprend, et on s'en rappelle, ce rouleau qui vole avec les 10 commandements, 5 d'un côté, 5 de l'autre. Waouh ! Et il dit qu'il appelle à malédiction. C'est vrai que dans l'épître Galates, si vous vous tournez avec moi dans Galates 3, c'est tellement riche, on va lire à partir du verset 6. Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi, et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. En effet, et verset 10, « En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi en faisant des bonnes œuvres, en suivant des rituels, des règles de vie, tout cela, ils sont sous la malédiction. Car il est écrit « Maudit soit tout homme qui ne restera pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » Ce n'est pas le tout d'être gentil un jour, de faire du bien à son prochain, c'est sans arrêt, constamment. Et vous pouvez imaginer quelqu'un qui ferait tous ses efforts, qui n'aurait jamais violé un seul commandement de la loi pendant 90 ans. Et le jour de sa mort, on lui demande « Alors, tu n'as jamais violé un seul commandement ?»« Non, j'ai réussi. » Pof ! Il vient de se vanter, était tout à recommencer, tout est fichu. Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. On est sous la malédiction de la loi. Les 10 commandements nous épinglent. Ils nous attrapent. Qui aurait la prétention ? Et c'est un peu la façon dont le ministère de Living Waters présente l'évangile. C'est de demander à la foule dans la rue, Mitch et Christine le font, Maria et Manuel à Cannes, c'est de demander aux gens s'ils pensent qu'ils sont des bonnes personnes. Et puis de leur donner un petit prospectus sur lequel les 10 commandements sont marqués et de leur faire réaliser que non, ils ne respectent pas comme ils le pensent la loi, les 10 commandements. Et que si les 10 commandements sont la mesure à laquelle nous sommes jugés par Dieu, où est-ce qu'ils vont se retrouver ? C'est une façon puissante de montrer, de faire réaliser aux gens que s'ils ne viennent pas à Jésus-Christ, ils ne vont pas pouvoir vivre pour l'éternité. On continue. Verset 11, « De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi, elle dit au contraire « L'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elles ». Mais voilà le verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous ». Parce qu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Jésus a pris à ma place la punition que mes péchés méritent. Il m'a racheté de la malédiction. En devenant malédiction pour nous, c'est lui qui a pris l'orage terrible de la colère de Dieu pour mes péchés passés, présents, futurs, mais pour tous les péchés présents, passés, futurs de toute l'humanité. Il a pris cette colère terrible qui s'est manifestée non seulement par une souffrance physique, mais cette souffrance physique, d'autres hommes l'ont vécue, mais par cette séparation terrible du Fils qui a vécu de toute éternité avec le Père et le Saint-Esprit. Et il l'a fait par amour pour Pierre, par amour pour Lucette, par amour pour Paulina, par amour pour Michael. Il l'a fait par amour de chacun d'entre nous. Et donc cette malédiction, elle se propage sur tout le pays. C'est le mot Eretz qui est utilisé en hébreu, qui peut désigner simplement la terre d'Israël, mais qui s'applique aussi à toute la terre. Et en fait, on sait que Dieu a tant aimé le monde. Cette malédiction, elle touche, elle menace, elle accable chaque homme qui vient au monde, sur notre terre. Cette malédiction, l'Éternel dit qu'il la propage, comme s'il la fait rentrer partout, dans la maison du voleur, celui qui n'a pas respecté le huitième commandement, dans la maison du parjure, celui qui n'a pas respecté le troisième commandement. Et ça, c'est juste un exemple de tous les commandements qui sont violés à longueur de journée par les hommes s'ils n'ont pas passé la malédiction qui leur tombe dessus sur Jésus-Christ, qu'il a prise pour lui, sur lui, mais pour être au bénéfice de cette malédiction qui est enlevée, il faut venir à lui, confesser que nous sommes pécheurs et que nous recevons ce salut qu'il nous offre. Il dit qu'elle a le maître de l'univers. C'est lui qui nous a donné ses 10 commandements et qui nous dit que si on ne les respecte pas, on est maudit. Et si ça continue, ça s'installe et ça détruit la charpente et les pierres de la maison de celui qui se cache. C'est aussi ce qu'on trouve dans le Lévitique lorsqu'il est question de comment la lèpre doit être. La lèpre agit, elle touchait non seulement les hommes, mais elle se propageait, elle touchait aussi les maisons. La lèpre des murs, si vous avez du mildiou chez vous, c'est un peu comme une lèpre. Lèpre des matières non organiques. En fait, ce sont des matières organiques qui touchent, qui détruisent. Et le péché, c'est comme la lèpre. Une des choses terribles avec la lèpre, c'est qu'elle tue la sensibilité de nos membres. Et donc, l'homme qui a la lèpre au bout des pieds, il ne sent plus ce qu'il touche. Il peut marcher sur des tessons de bouteilles sans s'en apercevoir. Ses tissus se coupent et saignent et s'abîment, s'infectent. Mais lui, il n'a aucune sensation de ça. Et le péché, c'est la même chose. Plus on commet de péché et moins on devient sensible à ce qu'on fait. C'est un peu comme si on a notre conscience est cautérisée, elle est comme brûlée au feu. Si vous êtes déjà brûlé un doigt ou un membre, vous savez que pendant quelque temps, vous n'avez plus de sensibilité. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous touchez. Et le péché, c'est comme la lèpre. Ça nous prive de conscience. Et ça commence comme la lèpre, par une infection, par une contagion. Et puis ça se répand, ça s'endurcit, ça grandit. Et donc, dans ce chapitre 5, il y a d'abord le fait Dieu va devoir, pour pouvoir bénir Israël, et encore une fois, dans les prophéties, il y a toujours un accomplissement plus ou moins immédiat. Le temple va être reconstruit, des gens vont venir s'installer, et puis il y a une réalisation pour la fin des temps, où toutes les nations de la terre viendront à Jérusalem, où Jésus reviendra, etc. C'est... D'abord, il faut détruire. Dieu s'occupe des pécheurs. Il ne veut pas de pécheurs pour accomplir son œuvre. Il ne peut pas les utiliser de façon efficace. Il est obligé de se servir des pécheurs que nous sommes pour faire son œuvre. Mais en même temps, il nous demande toujours de marcher dans la sainteté, de faire son œuvre par son esprit, pas par nos propres forces. Donc d'abord, il faut qu'il n'y ait plus de pécheurs, mais, mieux encore, le reste de cette vision, c'est plutôt la vision de la mesure à grain, c'est que le péché lui-même est enlevé. Lisons encore. « L'ange qui me parlait s'est avancé et m'a dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. » J'ai répondu, « Qu'est-ce que c'est ?» Il m'a répondu, « C'est la mesure à grain qui sort. » Alors dans certaines Bibles, dans certaines traductions, vous aurez peut-être le mot « épha », qui était le terme hébreu pour désigner une mesure de grain. C'était la plus grande mesure de grain qu'on utilisait en Israël à l'époque. L'épha, on parle aussi de boisseau, en anglais de bushel, c'était des mesures à grain. On n'utilise plus tellement ça, sauf quand on a les équivalents. On a vous avez peut-être dans votre cuisine un verre avec des graduations qui dit que là, ça fait un demi-litre d'eau, ou ça fait 360 grammes de sucre, ou 250 grammes de riz. C'est un peu la même idée. On mesure le volume pour pouvoir échanger et savoir de quoi on parle. Et donc, alors on pense que c'était en paille, un gros réservoir. Typiquement, c'était 40 litres, mais on pense que c'était plus grand puisqu'il y avait quelque chose de surprenant. La mesure à grains qui sortait, se promenait. Est-ce que vous avez déjà vu votre verre à mesure qui part se promener pour vous parler du péché? Waouh! Mais là, il est dit qu'il y a une femme assise au milieu de la mesure. Un disque en plomb a été soulevé et tout le monde regarde ça dans le pays. C'est l'objet de leur regard dans tout le pays. Un disque en plomb a été soulevé. Et là, on voit qu'il y avait une femme assise au milieu de la mesure. L'ange dit, c'est la méchanceté. Il l'a repoussée dans la mesure, donc il la remet dans le panier, et il referme avec le disque en plomb. C'est intéressant parce que ce disque en plomb, c'était ce qu'on appelait un talent. Les talents, c'était donc une... On pense que ça pesait à peu près 35 kilos. Et c'était une mesure de monnaie. Un talent d'argent valait très cher. Un talent d'or valait une fortune. Je n'ai pas pris le temps de faire le calcul avec le cours de l'or et de l'argent, mais c'était vraiment des sommes énormes. Là, c'était un peu moins cher. C'était 35 kilos de plomb. Mais c'est ça qui fermait la boîte, la mesure. Il y a quelques années, on m'avait recommandé de faire un examen médical, une scintillographie, je crois que c'est comme ça qu'on dit, scintigraphie, voilà. Mais on vous fait absorber une matière radioactive qui va se révéler sur le scanner, et vous pouvez voir des petites choses qui brillent sur votre scanner après, c'est une photo. Mais quand on vous amène le produit radioactif, si vous l'avez fait, vous savez que c'est un peu inquiétant parce que vous n'êtes déjà pas sûr de qu'est-ce que c'est que cette scintigraphie qu'on va vous faire. Mais ils ont une boîte métallique et ils enlèvent un couvercle en plomb. Parce que le plomb est le métal qui fait le plus obstacle aux radiations. C'est le gilet que les dentistes se mettent quand ils vous prennent vos radios des dents ou que vous prenez une radio. Ils vous disent qu'il n'y a pas de danger, c'est des mesures minimes, mais ils sont sûrs de bien se protéger, eux, et on se dit, mais attends, vous avez la chape en plomb et moi je suis tout nu, mais on dit que c'est parce qu'eux, ils sont... beaucoup plus exposé, on va les croire, mais... L'ange dit, c'est la méchanceté. Et c'est une femme. Alors désolé, mesdames, ça peut paraître machiste, mais en fait, on m'explique que en hébreu, les mots qui désignent les caractéristiques morales ou les qualités non tangibles, ce sont des mots féminins, alors que les choses dures, les choses qu'on peut toucher sont généralement masculins. Et donc là, c'est l'idée de dire c'est la méchanceté, ça conduit à voir une femme au milieu de la mesure. Et c'est vrai que dans la Bible, dans l'Apocalypse, à Thyatire, il est question de la Jézabel qui est au milieu de l'Église, la Jézabel, la femme d'Achab, qui était aussi une femme méchante, c'est le cas de le dire. Alors je ne pense pas que ça soit à prendre comme une insulte pour les femmes, mais c'est ce qui est utilisé ici. Et donc ils remettent cette méchanceté, le péché, le remettent dans la boîte et ils mettent le disque en plomb. Et puis il y a deux femmes qui apparaissent, le vent soufflait dans leurs ailes, elles avaient des ailes comme celles de la cigogne, et elles ont soulevé la mesure entre la terre et le ciel, donc le grand panier avec la femme qui représentait la méchanceté et le couvercle en plomb, et elles l'ont emporté très loin. Les cigognes, il est important de savoir que c'était des animaux considérés comme impurs dans le Lévitique. Et donc certains pensent que c'est peut-être des anges, mais on pense que c'était pas des anges au sens d'anges bons, mais peut-être des anges maléfiques qui emmènent cela. Et l'emmènent dans le pays de Shinéar. Shinéar, c'est un autre nom pour la région de Babylone. Et là, quand cette ville sera prête, elle sera déposée là sur sa base. Ça, on pense que ça fait allusion donc à Babylone, d'où est venu le commercialisme, le matérialisme mauvais, source de tentation et de péché. Les Juifs étaient un peuple agraire ou agricole. Ils s'occupaient, quand ils vivaient dans leur pays, avant d'être déportés, ils s'occupaient de vignes, d'oliviers, de blé. C'était des agriculteurs. Ils ont été emportés à Babylone, qui était connue pour son commerce. Dans l'Apocalypse, chapitres 17 et 18, il est question de Babylone la Grande qui est détruite en quelques instants. Il y a même deux aspects de Babylone. Il y a la Babylone religieuse qui est la Babylone des fausses doctrines, des cultes, des sectes plutôt, et puis ou de fausses religions, et puis la Babylone politique ou commerciale. Et aujourd'hui, on vit dans un monde qui est, si vous ne l'aviez pas remarqué, dirigé par le commerce. Et tout ce que ça entraîne comme péché pour s'enrichir. Et donc, cette vision de la mesure qui est enlevée, qui est ramenée à Babylone, qui sera détruite un jour, en quelques temps, en quelques heures, en quelques jours, c'est pour nous dire que la source de péché principal va être mise à l'écart. Et à ce moment-là, Dieu va pouvoir utiliser son peuple. Et donc, c'est deux visions étranges, pour le moins qu'on puisse le dire. Et j'espère que maintenant, vous aurez une meilleure idée de ce qui est dit là, et que vous, quand vous dites qu'est-ce que c'est que ce rouleau qui vole, vous serez capable de répondre mieux que c'est un rouleau qui vole. Les Juifs ont passé 70 années à Babylone, et c'est là qu'ils sont devenus commerçants. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits dans le monde, pendant la période où ils ont été exilés de partout, où les seuls métiers qu'on leur laissait faire, c'était des métiers de commerce ou des métiers intellectuels. Et ils n'ont pas subi la tentation de l'occultisme, ils sont restés fidèles à leur Torah, à leur loi, même s'ils ont ajouté beaucoup de fausses choses, ils ont multiplié les commandements à leur gré. Mais c'est vrai qu'ils ont pris la bosse du commerce. Mais Dieu dit que pour être utilisé, alors commerce n'est pas nécessairement mauvais, mais il y a cette tentation de l'argent qui est une source de péché terrible. Voilà, donc la malédiction, elle s'applique à tous les hommes, sauf, Dieu merci, il y a une solution, sauf si on est venu à Jésus-Christ et qu'on a fait cet incroyable transfert, cet incroyable échange où il nous donne sa sainteté et nous lui donnons ses péchés, nos péchés, pardon. Il n'a jamais commis de péché, mais il est devenu péché pour moi, péché pour nous, péché pour tous les hommes. Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tous ceux qui ont cru en son nom. Prions. Seigneur, tu es le grand communicant, Seigneur. Tu sais comment parler aux créatures que tu as faites. Tu peux frapper notre imagination par des images, par ces visions que tu as confiées à Zacharie. Nous te remercions pour ce prophète et sa fidélité pour retranscrire ces visions, Seigneur. Mais tu vois que nous sommes, nous aussi, nous avons besoin, nous le reconnaissons bien volontiers. Nous ne pouvons pas nous contenter d'essayer de respecter la loi pour être pardonnés de nos péchés, Seigneur. Nous devons venir à Jésus-Christ, le recevoir, être sauvés parce qu'il a vécu une vie parfaite et qu'il est mort pour mes péchés. Seigneur, parle à chacun d'entre nous. Que cette vérité soit toujours plus forte dans nos vies, que ce soit quelque chose qui nous aide à résister à la tentation, que ce soit quelque chose que nous ne prenions pas comme argent comptant qui nous est dû, Seigneur, mais comme une merveilleuse grâce, Seigneur. Cet amour que nous ne méritons pas, ce salut que nous ne méritons pas, Seigneur, tu nous l'offres au prix le plus cher qui soit, la mort de ton propre Fils. Dieu merci Seigneur, tu as accepté ce sacrifice, tu l'as ressuscité et Jésus, l'ange de l'Éternel, est aux cieux maintenant, il intercède pour nous, il veille sur chacun de nous, il nous connaît par nom, il nous donne ses merveilleuses promesses et surtout il est parmi nous Seigneur, par son Esprit Saint. Aide-nous à le réaliser toujours davantage Seigneur. Amen.